Radio Kapi.
À la une, 25 personnes testées positives au coronavirus, toutes habitant un immeuble à Kinshasa, Gombe. Parmi elles, 20 Indiens et 5 Congolais, annonce le ministre de la Santé. Devant la presse, hier, Jean-Jacques Mbungani a assuré que des mesures de santé publique sont déjà prises pour éviter la propagation de la maladie. La femme de Beni ne jure que par la restauration de la paix dans cette ville après l'instauration de l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri. C'est ce qu'a fait savoir le point focal du collectif des femmes pour le développement qu'a fait Beni, vous l'entendrez. L'invité de ce matin, Jacques Katembo, coordonnateur provincial du programme désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire dans le Nord et Sud Kivu, il nous fait le point sur les acquis de ce programme et le retard qu'il connaît dans sa mise en œuvre. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de Kinshasa. 25 personnes détectées positives au coronavirus dans un immeuble situé dans la commune de la Gombe. Parmi elles, 20 de nationalité indienne et 5 congolais. C'est ce qu'a communiqué le ministre de la Santé à la presse hier à Kinshasa. Selon Jean-Jacques Mbungani, ces cas constituent les résultats des analyses effectuées sur 146 personnes. D'autres détails avec Paul Matendo Mayamba.
Le ministre de la Santé a souligné que des mesures de santé publique ont aussitôt été prises pour éviter la propagation de cette maladie. Quelles sont ces mesures, Jean-Jacques Mbungani?
L'organisation de la prise en charge correcte selon le protocole national de toutes les personnes infectées, la décontamination de l'immeuble concerné, l'approfondissement des investigations de tous les cas confirmés et l'identification de tous les contacts à suivre. Également, la prise de mesures conservatoires des sites identifiés comme étant suspects. L'extension des investigations à d'autres sites suspects qui ont été en contact avec les occupants.
Jean-Jacques Mbungani a ajouté que l'INRB effectue en ce moment des analyses pour déterminer les types de variants. Pendant ce temps, il appelle au respect des dispositions pratiques prises au niveau national.
Au niveau national, le renforcement de la surveillance au niveau des frontières, l'obligation d'un test PCR négatif à tout passager en provenance des pays à haut risque. La réalisation de 2 tests obligatoires à l'arrivée.
Le ministre de la Santé a aussi demandé à la population de continuer à observer les mesures barrières afin d'éradiquer cette pandémie en RDC.
Dans l'actualité aussi, la deuxième réunion du Conseil des ministres du gouvernement Samalou Kondé hier, dans son allocution d'orientation, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur l'état de siège décrété en Ituri et au Nord Kivu, ainsi que les mesures d'application y afférentes. Le président de la République a présidé cette réunion par visioconférence depuis ses bureaux de l'Union africaine. Entre-temps, sur le terrain au Nord Kivu, la femme de Beni attend avec intérêt que les objectifs qui ont amené à l'instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri soient atteints. Elles veulent qu'à la fin de cet état de siège, la paix soit restaurée dans ces deux provinces, attente exprimée par Maître Patience Sinamouli, point focal du collectif des femmes pour le développement qu'a fait Beni. Elle est au téléphone de Guylaine Kassassia.
Nous sommes en train d'encourager les grandes initiatives, mais seulement que nous attendons seulement la restauration de la paix à ville de Beni. Comme je disais en application, nous espérons que d'ici quelques matins, la femme de Beni pourra recouvrir sa liberté, pourra recouvrir la sécurité, et tout ce qui nous est à la liberté de la femme pourrait être buté dehors. Comme nous attendons que la restauration intégrale de la paix à ville de Beni. Nous, en tant que femmes de Beni, nous sommes prêts à accompagner ces mesures de la restauration de la paix. Nous allons continuer toujours à dénoncer comme nous le faisons souvent. Donc, nous sommes en train d'appeler d'autres femmes à se joindre à cette mesure, qu'elles collaborent avec les institutions qui sont déjà installées pour que la paix revienne à Beni. Nous n'attendons que les congrès. Parce que toutes les fois, nous apprenons les mesures, toutes les fois, on dit qu'il y a ceci, cela, mais qui n'aboutit à rien, mais tout ce que nous attendons, c'est le congrès. Une fois le congrès sera là, la femme de l'île se réjouira parce que tout le monde est libre, va dire vraiment des occupations.
Le ministre d'État et ministre du Budget exhorte le personnel de son administration à œuvrer davantage pour l'intérêt supérieur de la nation et selon la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi, Aimé Boji Sangara était devant la presse hier à Kinshasa à l'issue d'une tournée de 2 jours dans toutes les structures de ce ministère en compagnie d'Élisée Bokoumouana, vice-ministre du Budget. Une tournée positive, dit-il, en vue de s'imprégner des réalités vécues par ces structures et les rendre plus efficaces pour relever les défis majeurs du gouvernement, a dit le ministre du Budget, Aimé Boji, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Bon, les expressions sont bonnes parce que les ressources humaines sont au point. Nous avons un personnel qualifié, mais c'est le matériel qui fait défaut. Et donc, ça c'est un besoin visible et perceptible. Et le défi, c'est d'abord d'équiper l'outil de production et bien entendu, essayer de mettre le personnel au niveau, au standard international pour opérer avec ces équipements qui seront modernes. C'est un défi à 2 niveaux. Sur le plan technique et sur le plan des ressources humaines. Et je crois qu'avec votre collaboration, nous devons pouvoir résoudre ce problème. Avec l'objectif de relancer cet outil de production qui est très très important pour accompagner le gouvernement de la République dans l'accomplissement de ses missions dans le cadre de la vision du président de la République. Donc, nous voulons vous rassurer que nous sommes là pour travailler ensemble, pour vous accompagner. Nous allons vous demander d'être indulgents avec nous. Et le défi, c'est d'abord d'équiper l'outil de production et bien entendu, essayer de mettre le personnel au standard international pour opérer avec ces équipements qui seront modernes.
Devant les cadres et agents de la direction de politique budgétaire, de la programmation budgétaire, de la paie, du contrôle du marché public et du service national d'approvisionnement et d'imprimerie, la délégation syndicale a fait part au ministre du Budget des diverses difficultés auxquelles elle fait face à travers un mémorandum. Justice. Affaire assassinat de Sylvie Messa, opérateur économique de Moanda au Congo central. Le verdict est tombé hier. Alexandre Panda, alias Nzete Ambila et son collaborateur, reconnu coupable dans l'assassinat de Sylvie Messa, tué le 15 novembre dernier à Moanda. Le tribunal de grande instance de Matadi siégeant en matière pénale au premier degré a rendu hier son jugement en les condamnant à mort. Ce procès avait été suspendu le 7 janvier dernier par la Cour d'appel du Congo central pour suspicion légitime contre le tribunal de grande instance de Boma, le récit de Nana Plurish Mambo.
Retrouvée morte le 15 septembre de l'année dernière, le corps de Sylvie Messa, opérateur économique à la cité côtière de Moanda, se trouve encore gardé à la morgue de l'hôpital général de Moanda. Le procès de ce meurtre a été ouvert le 8 avril dernier par le tribunal de grande instance de Matadi. Parmi les 5 prévenus, 2 ont été condamnés à la peine capitale. Il s'agit d'Alexandre Panda alias Nzeta Mbila, le copain de la victime et son collaborateur Assiata Guilin. Outre la peine de mort, Alexandre Panda a encore écopé de 5 ans de servitude pénale pour escroquerie. Lui et son collaborateur sont condamnés à payer la somme de 20 000 $ à la partie civile en guise de dommages et intérêts. Le tribunal a aussi ordonné à Alexandre Panda de restituer à la famille de l'infortuné Sylvie Messa la somme de 18 000 $ escroquée. Faute de preuves confirmant leur participation à ces crimes, les 3 autres prévenus ont été acquittés sans condition par cette instance. Signalons que, concernant cette affaire de meurtre, c'est le tribunal de grande instance de Boma qui a siégé en foraine à 5 reprises à la cité côtière de Moanda dans les territoires portant ces mêmes noms. C'est la Cour d'appel du Congo central qui a décidé de délocaliser les procès à Matadi devant une autre juridiction après qu'elle a été saisie par les prévenus Alexandre Panda en suspicion légitime contre le tribunal de grande instance de Boma. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Nord Kivu, les menaces qu'auraient proférées des éléments fardessés au président de la société civile de Vichumbi ont conduit ce dernier à vivre en clandestinité. Tout est parti de l'intervention de la société civile dans une altercation entre un militaire fardessé et une habitante de Vichumbi, rapporte des sources sur place. Le militaire interpellé par sa hiérarchie serait mécontent et il multiplierait des menaces contre Mbaye Makayanga Muviri, président de la société civile de Vichumbi. Mathieu Ilunga nous raconte.
Mbaye Makayanga Muviri, chef d'antenne de la société civile de Vichumbi en territoire de Rutshuru, vit en exil hors de son domicile. Il craint les menaces vocales et écrites via des messages téléphoniques et autres moyens annonçant sa mort. Il pointe du doigt accusateur, un élément de FRDC qui aurait tiré une balle sur lui en représailles à sa dénonciation du cas d'une femme accusée de fabriquer du charbon de bois dans le parc. Les preuves de présence d'un sac ont été trouvées à domicile par la société société civile et de certains notables de la localité. C'est en représailles que le militaire s'est tourné contre Mbaye Makayanga, responsable de la société civile lors de la dispute. Il lui a tiré une balle. Ce dernier a porté une plainte contre les soldats auprès de sa hiérarchie à Rutshuru. L'élément est interpellé. Le chef de localité Vichumbi promet de s'y investir pour que Mbaye puisse recouvrir sa liberté et vaquer à ses activités.
Mathieu Ilunga Chamboyo Monatibé, Goma, Radio Okapi.
Sud Kivu, sensibiliser la population sur les droits des femmes à la protection et à la participation pour l'égalité et la paix autour des mines artisanales, c'est le but de la mission qu'effectue une équipe du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme à Kigulube, dans le territoire de Shabunda. La première séance de sensibilisation a regroupé jeudi une trentaine de femmes membres des clubs des droits de l'homme du groupement de Bamuguba Sud. Les casques bleus du bataillon indonésien de la MONUSCO ont été conviés à la phase d'ouverture de cette formation, le compte-rendu de Michel Chirimwami.
C'est à la paroisse catholique qu'a eu lieu la formation débutée ce mercredi 5 mai 2021. Les femmes membres du club des droits de la femme ont été invitées à suivre cette formation et elles provenaient de leurs différents noyaux de clubs. Cette formation fait partie du projet Droits des femmes à la protection et à la participation pour l'égalité et la paix autour des mines artisanales du Sud Kivu. Les participantes sont ainsi amenées à sensibiliser les autres de la communauté. Le recyclage sur les droits de l'homme a pris une partie importante de la journée avant d'entamer les droits des femmes par l'officier des droits de l'homme du BCNUDH MONUSCO Kinshasa, Madame Martina Ndi. Après la formation des femmes membres des clubs droits humains, la délégation venue de Bukavu ce mardi 4 mai fera une semaine de séjour à Kigulube. Les élèves des écoles de la place bénéficieront ainsi de cette sensibilisation aux droits de l'homme et aux droits de la femme. Kigulube, Michel Chirimwami, Radio Okapi.
Province du Maniema, signalons le lancement officiel jeudi à Kindu de la campagne de lutte contre les violences basées sur le genre par l'ONG Action pour la sauvegarde de l'enfant et de la femme abandonnée. Selon la coordonnatrice de cette structure au Maniema, cette campagne vise à sensibiliser toute la population pour afin éradiquer cette pratique honteuse, a dit Annie Sinandougou au micro de Florence Kizalunga.
Il s'agit de lancement de campagnes de sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles. Ce programme est financé par PDI. PDI a été financé par la Banque mondiale pour financement des infrastructures. Ils sont en train de travailler sur le caniveau de l'avenir Liba. Et dans tous les programmes financés par la Banque mondiale, PDI a prévu quand même une autre activité par rapport à la sensibilisation, puisque tout programme de PDI est accompagné par la sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Le message est que la communauté doit s'approprier ces messages par rapport à la lutte contre les violences basées sur les genres, surtout pour les gens qui travaillent dans ces tranches, que la population ne cède pas à la violence, que la population soit informée en cas de violence sexuelle, que la population se dirige vers ACFA pour faire la dénonciation. Ce que nous sommes en train d'exhorter la population, c'est de dénoncer les cas de violence sexuelle.
Province de l'Omami, notez la suspension depuis jeudi de toutes les activités sportives par le maire de la ville de Cabinda. Cette décision intervient après les troubles survenus le mercredi au stade camp militaire de Cabinda lors du match de football qui a opposé les clubs sportifs FC Nyuki et Ange Vert à la mi-temps. Cette compétition a été organisée dans le cadre de l'entente urbaine de football de Cabinda. Le bilan provisoire de ces échauffourées fait état d'un mort, plusieurs blessés graves, des dégâts matériels importants, ainsi que le saccage d'une résidence privée d'un fanatique. Avant l'aboutissement des enquêtes, le maire de la ville de Cabinda, Joseph Kazadingoy, instruit les services de sécurité de faire respecter la présente mesure. Joseph Kazadingoy au micro de nos confrères de la radio Veritas de Cabinda.
Toutes les activités sportives, même les clés, donc c'est suspendu jusqu'à nouvel ordre. L'entente est soumise à la discipline, à l'ordre donné par l'autorité urbaine, interdisant toutes les activités sportives, même les clubs. Donc c'est suspendu jusqu'à nouvel ordre. jusqu'à ce que la justice va pouvoir tirer au clair ce dossier. Parce que personne ne sera impuni. Tout celui qui est cité dans ce dossier, qui a entraîné mort d'homme, donc sera coupable. La justice fera son travail. Donc il n'y aura rien et rien sur la ville. Le comité de l'entente est ici dans la salle d'attente. Vous avez trouvé ici avec le membre du comité de sécurité. Nous sommes en train de parler toujours autour de toutes ces questions-là. Et la population doit rester calme. Il n'y aura ni match ni entraînement à travers toute la ville héroïque de Cabinda.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes au Tchad. C'est une journée sous haute tension qui s'annonce. La coordination citoyenne Wakitama appelle la démarche dans tout le pays aujourd'hui 8 mai pour protester contre les autorités de transition instaurées après la mort d'Idriss Déby il y a presque 3 semaines. Le gouvernement a expliqué hier que les manifestations étaient autorisées sous certaines conditions, des conditions rendant de facto illégale toute manifestation ce samedi. Un sommet virtuel entre l'Union européenne et l'Inde se tiendra aujourd'hui à Porto, au Portugal, pays qui assure la présidence tournante de l'Union européenne. L'objectif des deux puissances est de renforcer leurs liens économiques et stratégiques et de reprendre leurs négociations sur un accord de libre-échange suspendu depuis 2013.
L'invité.
Ce matin, comme annoncé, nous recevons Jacques Katembo, coordonnateur provincial du programme Désarmement, Démobilisation et Réinsertion Communautaire DDRC dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Dans cet entretien avec Denise Lukeso, il revient sur les causes de l'activisme des groupes armés. Il fait également le point sur les acquis de ce programme et le retard connu dans sa mise en œuvre. Suivez.
Monsieur Katembo, Jacques, bonjour.
Bonjour.
On parle aujourd'hui de la recrudescence de groupes armés dans presque tous les territoires de la province, Masisi notamment, tout comme Walikale. Vous, en tant que DDRC, quelles sont les causes, selon vous, de cette recrudescence?
Aujourd'hui, le Nord Kivu est vraiment frappé par les groupes armés, notamment à Masisi, à Walikale, à Lubero, partout. Il y a recrudescence de sécurité. Les groupes armés qui étaient un peu passifs sont devenus très actifs dans les Masisi et sont en train de perturber la quiétude de la population. La cause, c'est que les groupes armés là, qui étaient déjà sensibilisés, qui avaient déjà signé même des actes d'engagement, ils ont repris encore le combat parce que c'est là qui était déjà cantonné à Mubambiro, à Kalunguta et à Rumangabo. Certains sont rentrés encore dans leur bastion faute de prise à charge. Alors, ce qui fait que même leurs chefs qui étaient déjà ici à Goma, tels que les Machano, les Matata et les autres, sont en train encore de se réorganiser pour faire la guerre.
Et vous, en tant que DDRC, c'est un processus de désarmement, de mobilisation, réinsertion communautaire. Où en êtes-vous aujourd'hui?
Nous, comme DDRC, nous avons déjà fait la sensibilisation. Nous avons déjà la cartographie de tous les groupes armés, aussi déjà leurs chefs, leurs numéros de téléphone. Nous les avons sensibilisés et certains de ces groupes-là ont signé les actes d'engagement pour adhérer au processus de paix. Cependant, ces groupes armés-là, ils cherchent où se cantonner. Le programme n'a pas été lancé par le chef de l'État. Quand il a été ici, nous l'avons conduit à Mubambiro. Il s'est entretenu lui-même avec le combattant qui était là et il a promis venir par la suite. Et il a promis même 50 millions pour que le programme puisse être lancé. Et les gens étaient en train d'attendre ça. Mais certains de ces chefs rebelles qui ont croisé même le président sont rentrés dans la brousse pour faire encore la guerre.
Pour dire que les financements promis par le chef de l'État traînent, et ce qui fait que ces combattants commencent à retourner dans la brousse.
Oui, c'était suite à la prise en charge, mais aussi les centres de cantonnement n'étaient pas encore préparés. Aussi, ces groupes armés qui attendaient dans la brousse sont restés là. C'est ce qui explique la recrudescence de la sécurité dans notre province.
Oui, vous parlez de centre de Mubambiro, les centres de cantonnement et des prises en charge de ces combattants. À quel niveau où ça pose problème?
C'est au niveau seulement de la prise en charge, parce que les centres de Mubambiro, les combattants qui sont là n'étaient pas pris en charge par le gouvernement central. Et on avait seulement les subventions du gouverneur qui nous saluait à Passa. Le gouvernement provincial nous a accompagnés dans la sensibilisation, mais aussi dans la prise en charge de ces combattants qui étaient à Mubambiro. Mais tous qui étaient dans la brousse étaient en train d'attendre qu'on puisse leur construire des centres d'accueil, des centres de cantonnement. Cela n'a pas suivi.
Oui, aujourd'hui, avec cet activisme des groupes armés, vous l'avez mentionné, presque sur l'ensemble de la province, qu'est-ce que DDRC fait pour sensibiliser tous ces groupes armés au regard de toutes les difficultés, tous les problèmes que vous rencontrez dans ce travail?
Nous avons été à Lubero, Masisi, nous avons été à Walikale pour préparer ces combattants pour le désarmement. Le gouverneur a été limité parce que vous savez que le programme d'aide communautaire ne peut pas être financé par le gouvernement provincial. C'est ainsi que nous appelons le gouvernement central à s'acquitter de leurs devoirs parce que c'est connu de tous. La démobilisation et la récession communautaire, ça incombe au gouvernement central et aux partenaires. Aujourd'hui, nous lançons l'appel au gouvernement central à leur dire que le Nord Kivu est prêt. Et tous les groupes armés sont prêts à se rendre et que le gouvernement doit mettre la main à la pâte pour matérialiser le programme DDRC. Nous avons déjà la feuille de route, nous avons déjà le plan stratégique et tous les outils sont déjà prêts. Nous attendons seulement le gouvernement central. L'occasion d'appeler les ministres de la Défense qu'ils puissent venir lancer le programme parce que tout est déjà prêt.
Monsieur Jacques Katembo, Radio Kapi vous remercie.
Ok, merci beaucoup.
Notre invité, le coordonnateur provincial du programme désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire DDRC au Nord et Sud qui vous répondait aux questions de Denise Lukeso. C'est la fin de ce journal supervisé par Ben Kabamba. Coordination de Richard Junior Kamunga. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur toutes les plateformes numériques de Radio Kapi.